Veuillez vous asseoir. Alors, nous allons partager la parole de Dieu. Dans vos prières ce matin, nous avons entendu, moi aussi comme vous, que Dieu est le créateur du monde. Et c'est par là où je vais commencer ces textes que nous allons partager ensemble. Dieu est celui, bien-aimé, qui a créé les cieux et la terre. C'est lui le créateur du monde. En créant le monde, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a établi certains principes, n'est-ce pas? Il a donné certaines règles. Et il a aussi fixé des normes. Parce qu'il est Dieu. Il sait ce qu'il a fait. Mais ce qui est encore merveilleux, c'est qu'au centre, il a placé l'homme. Il a placé l'homme au centre. L'homme créé à son image. L'homme qui devrait nouer des relations avec lui. Parce que notre Père, c'est un Dieu de relations. L'homme devient alors son interlocuteur. L'homme devient alors son porte-parole. C'est lui qui va porter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Soudainement, il y a un qui arrive au milieu entre Dieu et l'homme. Et celui-là est bien-aimé. Il est ce que Dieu a établi. Il est en colère de tout ce que Dieu a fait. Son seul désir, son seul but, il essaye, n'est-ce pas, de détruire, de défaire ce que Dieu a fait. Et en allant encore plus loin, il veut détourner celui que Dieu a placé au milieu pour communiquer avec lui. Celui-là, vous le connaissez? C'est qui? N'ayez pas peur de le dire. C'est qui? C'est Satan. C'est Satan. Lui, il est là pour défaire ce que Dieu a établi. Il a de la haine envers ce que Dieu a fait. D'ailleurs, l'apôtre Jean dit que Satan est un gorgeur. C'est un destructeur. C'est son nom. Il faut l'appeler par son nom. Il ne faut pas avoir peur de l'appeler par son nom. C'est un égorgeur. Et lui, il a que de la haine en lui. Mais Dieu est bon. Dieu est tout puissant. Puisqu'il a fixé des limites, puisqu'il a fixé des règles, Satan n'est qu'une créature. Donc il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a donné comme norme, comme principe, il ne peut pas. Il a des limites. C'est là où nous voyons la grandeur de Dieu. C'est là où nous voyons sa majesté. C'est là où nous disons que Dieu, tu es un Dieu tout-puissant. Oui, ce Dieu tout-puissant est aussi un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Et c'est lui qui demeure, c'est lui qui appartient à Dieu. Nous tous qui sommes là, nous appartenons à Dieu parce que nous sommes ses enfants. Puisque nous l'appartenons, bien-aimé, nous devons demeurer dans son amour. Cet amour si merveilleux, si grand, incomparable, incommensurable. Mais les textes que nous allons lire ce matin, ces textes nous délivrent une vérité. Oui, toute la Bible, c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Mais dans ces contextes, ces textes, c'est une vérité. Que Dieu, écoutez-moi bien, que Dieu est. Que Dieu est un certain type d'amour. Si je vous pose la question, êtes-vous d'accord avec moi ou non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi. On va continuer. Donc Dieu est un certain type d'amour. Il n'aime pas cette forme d'amour, il n'aime pas notre Dieu. Alors c'est quoi? Lisons 1 Jean 2, 17, les 15 pardon, à 17. Et vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Pourquoi vous avez dit non? Mais peut-être maintenant vous allez dire oui. Alors, nous allons lire ces textes. Vous y êtes? Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? N'aimez point le monde. N'aimer, c'est l'amour. N'aimez pas. Je n'aime pas. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dieu est. Si quelqu'un aime le monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. Dieu est. Dieu est ce type d'amour. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Devrais-je continuer à aimer ce monde? Je vous pose la question. Devons-nous continuer à aimer ce monde? Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Dieu est un certain type d'amour. De quel amour l'apôtre Jean, bien-aimé, nous met-il en garde ici, dans ce contexte? Ce n'est pas le monde physique, non. J'ai dit non, ce n'est pas le monde physique. Ce n'est pas non plus le monde matériel, non. Car dans ce monde physique, dans le monde matériel, il y a ou il existe beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses qui sont des dons que Dieu nous fait. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il existe beaucoup de choses dans le monde physique et matériel que Dieu fait des dons aux hommes. Ça, c'est une grâce. Mais, encore une fois, ces choses qui sont bonnes pour nous, que Dieu a créées pour nous, nous devons que nous réjouir, être reconnaissants de ce que Dieu nous les donne. Parce que tout nous vient de lui. Ça ne vient pas d'ailleurs, tout nous vient de lui. Mais il continue à dire que mes enfants, mon peuple, il ne faut pas attacher votre cœur. Bien que je vous donne toutes ces bonnes choses, je sais c'est moi qui les ai créées, mais n'attachez pas trop votre cœur à ces choses. Je prends un exemple. L'argent. C'est bien. Excusez-moi, mais nous ne sommes pas nus, nous sommes tous habillés, n'est-ce pas? Pour aller acheter ces habits, il faut de l'argent. Pour payer les transports, pour ceux qui sont venus en autobus, il faut de l'argent. Ceux qui ont de la voiture, il faut mettre de l'essence. L'essence, il faut de l'argent. L'argent n'est pas mauvais en soi, n'est-ce pas? Mais l'amour de l'argent est coupable. Quand tu dépasses les bornes et les normes que Dieu a fixées, là, tu n'es plus dans la loi de Dieu. Là, tu débordes et ce n'est plus bon. L'argent est bon en soi, mais l'amour de l'argent est coupable. Le travail, c'est bien, n'est-ce pas aussi? Quand tu n'as pas du travail, tu pleures, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi du travail. C'est bien de travailler, c'est bien d'avoir un travail. Parce qu'à la fin, je sais que j'aurai de l'argent, je peux nourrir ma famille, je peux me faire soigner, etc., etc. Mais l'amour du travail aussi, quand on dépasse, ce n'est pas bon. Il y a des limites. Le repos, qui n'aime pas le repos? Cet après-midi, vous allez dire, j'ai travaillé toute la semaine, n'est-ce pas? Ah, le matin, je vais glorifier Dieu. Je suis dans la joie. Comme vous l'avez fait ce matin, vous avez chanté avec tout votre cœur, avec votre joie. Le Seigneur est reconnaissant et il est heureux. Donc, maintenant, je rentre, je mange. Après manger, je veux me reposer. Donc, le repos n'est pas mauvais en soi, n'est-ce pas? C'est bon de se reposer. C'est très bien de se reposer. C'est une bonne chose. Mais l'amour du repos, qu'est-ce que ça fait? Je vous laisse un peu. Ah, vous avez tout répondu. Donc l'amour bien-aimé du repos conduit à la paresse. Ça conduit à la paresse. Nous pouvons multiplier tant et tant et tant d'exemples comme ça. Mais ce matin, nous allons nous arrêter sur ces trois exemples. Que chacun, quand il va à la maison, il dit, mais j'aime ça, l'amour de ça, non. J'aime ça, mais l'amour de ça, etc., etc. Manger, c'est bien aussi. Et si tu ne manges pas, tu perds du poids, n'est-ce pas? La santé prend un coup, comme on dit. Mais quand tu manges normalement, tu ne fais pas la gloutonnerie, etc. Mais c'est une bonne chose. Mais, poursuivons. Mais le monde que Dieu est, ce monde dont j'ai dit que Dieu est. Lisons 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous, tous qui sommes là, nous savons, nous sommes convaincus que nous sommes de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes des enfants de Dieu. Mais par ailleurs, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous avons parlé du monde physique. Tout est beau, tout est bien. Ce que Dieu a créé, il nous a fait des dons, etc., etc. Mais le monde que Dieu est, ce monde-là, bien-aimé, c'est l'ensemble des systèmes spirituels mauvais et invisibles. C'est ça que Dieu est. Il a de la haine envers ce monde-là. Donc, ce monde qui fait l'ensemble des systèmes spirituels mauvais, invisibles. On peut encore continuer à définir ce monde-là, c'est le monde de ténèbres. Encore, donc, qui est dominé par qui? Par Satan. Parce que 1 Jean, que nous venons de lire, nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est dominé, donc, le monde de ténèbres est dominé par le diable. Il est dominé par le diable avec tout ce qu'il offre. Il offre au monde, dans ce monde-là, il offre, Satan offre, pour s'opposer à Dieu. Dieu a nommé, il a placé ses normes, il a établi des principes, etc. Mais Satan, lui, donc, il veut s'opposer à Dieu. Donc, il offre des choses pour s'opposer à Dieu. Il offre des choses pour s'opposer à sa parole. Il offre des choses pour s'opposer à qui? À son peuple. Vous savez, Satan ne vous aime pas. Satan ne vous aime pas. Hein? Vous êtes ses ennemis parce que vous appartenez à Dieu. Nous sommes de Dieu, nous dit la parole. Donc Satan nous hait parce que nous appartenons à Dieu. N'oublions pas ça, que Satan nous hait. Et d'ailleurs, nous pouvons dire que ce monde, c'est le royaume du diable. Ce monde-là, ce monde de systèmes mauvais, invisible, avec tous ces anges déchus. Donc ce monde-là, le monde du diable, parce que lui-même, il est le prince de ce monde. Satan est appelé prince de ce monde. Dans Jean 12, verset 31. Bien-aimé frère, j'aimerais que nous puissions retenir quelque chose d'important dans ces contextes. Ces textes de 1 Jean, n'aimez point le monde. Il y a deux personnes dans le monde. Deux personnes dans le monde. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà les deux personnes qu'on trouve dans le monde. Si on nous demande de décrire le monde, de placer les gens qui sont dans le monde, il y a deux personnes. Ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. D'ailleurs, ce que j'ai dit, c'est dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 3, verset 10, nous en parle. Puisque le monde tout entier, comme l'apôtre Jean continue à nous révéler ce matin, est sous l'influence. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes des dieux, nous devons être vigilants. Chacun de nous devrait être vigilant. Nous devons être vigilants et ne pas se laisser contaminer par le train de ce monde. Donc, de ne pas nous laisser piéger par des raisonnements de ce monde. Mais quels sont ces raisonnements? Les raisonnements de ce monde qu'il ne faut pas que nous puissions pas nous laisser piéger, contaminer. C'est l'ensemble de quoi? Des pensées. C'est l'ensemble des idées. C'est l'ensemble des spéculations, des argumentations, des philosophies, des vaines philosophies, des fausses doctrines et des fausses religions. Qui dit fausse doctrine dit faux docteur, fausse religion, des faux pasteurs partout. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu nous tire, nous ouvre les yeux, afin que nous comprenions que l'ensemble de ces raisonnements, il ne faut pas que nous laissons piéger. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, Satan, chaque jour, il aiguise ses flèches pour les lancer vers nous, vers le monde, n'est-ce pas? Ces flèches viennent, une flèche avec des pensées, l'autre avec des idées, l'autre avec des spéculations, des argumentations, etc., etc. C'est pourquoi nous voyons que le monde est en effervescence. Le monde est troublé de partout. Mais les enfants de Dieu, eux, restent inébranlables. Parce que nous savons à qui nous avons placé notre confiance. Donc, ne nous laissons pas contaminer par tous ces raisonnements. Mais il ne faut pas oublier que cet ensemble de raisonnements forme des barrières. Ce sont des barrières, bien-aimés, pour l'homme. Ce sont des barrières. Et ces barrières poussent l'homme à l'aveuglement. Ces barrières nous empêchent. Si j'adhère aux pensées du monde, je vais penser que comme le monde. Je ne vais plus penser comme Christ. Je ne vais plus agir comme Christ. Si je m'adhère à cette philosophie du monde, je ne vais que philosopher comme le monde. C'est pourquoi Dieu nous met en garde contre tous ces raisonnements. Ce sont des barrières qui nous empêchent à aimer Dieu, qui nous empêchent à écouter la parole de Dieu, qui nous empêchent à servir Dieu, etc., etc. Donc, l'aveuglement est là. Le monde est aveugle à cause de toutes ces choses. Donc, nous, Dieu nous a fait grâce. Il est venu jusqu'à nous, il s'est dépouillé pour nous. Il a accompli l'œuvre salvatrice sur la croix. Personne d'autre ne peut l'accomplir. Comme nous chantons, il n'y a personne comme Jésus. Nous pouvons aller partout dans le monde, on ne trouvera personne. C'est Jésus-Christ, le nom le plus précieux, Jésus. Oui, avec lui, nous ne sommes plus esclaves. Avec lui, nous sommes affranchis. Avec lui, nous pouvons dire au mensonge du diable, « Arrière de moi, Satan. » C'est contre la vérité, « Arrière de moi, Satan. » Parce que Dieu nous a donné la sagesse. Il nous a donné le discernement de contrecarrer toutes ces choses. Oui, parce que Dieu nous aime, il nous a donné aussi les armes spirituelles, toutes puissantes. Éphésiens 6, vous pouvez lire cela, je ne peux pas lire aujourd'hui, mais quand vous allez rentrer à la maison ou pendant la semaine, essayez de lire Éphésiens 6. Vous verrez les armes spirituelles puissantes que Dieu nous a données. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses du diable, pour renforcer tous ces raisonnements, tous ces contre-vérités, tous ces mensonges. C'est pourquoi nous pouvons dire « Gloire soit rendue à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous jour après jour. » Ces textes que nous venons de lire n'aiment point le monde. Je lisais dans une version français courant avec Alfred Queen. Il disait que « N'aimez point le monde, c'est n'attachez pas votre cœur au monde. » La traduction la plus courante, simple, même pour les enfants. N'aimez point le monde. Donc, n'attachez pas. Mon cœur est là. Je ne veux pas l'attacher au monde. Ni rien de ce monde. Ni rien du tout de ce monde. Comme vous le savez, avant notre rencontre avec Jésus-Christ, nous étions comment? Nous étions des rebelles. Nous étions des fanfarons. Nous étions des enfants désobéissants. Donc, on agissait comme dans le monde. On écoutait les pensées du diable. Ses philosophies, ses raisonnements. On raisonnait comme lui. Mais Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, notre vie a changé. Qui est celui qui a changé notre vie? C'est Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Notre mentalité a changé. Notre intelligence s'est transformée. Vous voyez? Et s'est renouvelée. Car c'est Jésus qui a mis des nouvelles pensées en nous. Il nous a donné une bonne mentalité. Il nous a donné des bonnes directives à suivre. Il a dit, voici le monde. Mais voici le chemin que moi je vous mène. Moi, votre héros, suivez-moi. Le monde va à la perdition. Mais celui qui marche avec le Seigneur va à la félicité éternelle. Amen. Oui, Jésus-Christ nous a transformés. C'est pourquoi lui-même il a dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? C'est une réalité que le chrétien, nous tous qui sommes là, nous sommes morts au monde. Ça, il ne faut pas que nous l'oublions. Nous sommes morts au monde, bien-aimés. Et nous sommes vivants pour Jésus-Christ. En lui et avec lui. Amen. C'est pourquoi Christ, comme nous venons de le chanter, la lumière du monde est venue jusqu'à nous. Mais certains, comme la Bible nous dit, ont fait le choix d'accepter cette lumière. Ils ont fait le choix d'aimer cette lumière, de suivre cette lumière, d'apprécier cette lumière, d'honorer cette lumière. La lumière ici, c'est Jésus-Christ. Mais d'autres, par contre, ils ont préféré le ténèbre, les raisonnements de ce monde, de vaines philosophies, etc., etc. C'est là parce que leurs œuvres sont ténébreuses. Ils ne veulent pas mettre leurs œuvres en lumière. Ils ont suivi le diable, ce monde invisible, ce monde avec un système mauvais, spirituellement mauvais. Ils acceptent ces raisonnements, ces pensées. Mais nous, nous sommes les enfants de la lumière. C'est pourquoi, bien-aimé, il est impossible, bien-aimé, d'aimer en même temps Dieu et le monde. Est-ce que c'est possible? Alors, je prends un exemple. C'est la même chose. Il est impossible d'aimer mon cœur qui doit s'attacher à Dieu et l'autre côté, ce cœur doit aussi attacher au monde. C'est un combat, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La victoire est assurée en qui? En Jésus-Christ. C'est pourquoi, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le mot amour ici signifie quoi? Simplement affection. Attachement. Je suis attaché. À qui? À Dieu. Pour un chrétien véritable comme nous le sommes, bien-aimés, né de nouveau, régénéré, la première place appartient à qui? À Dieu. Et non au monde. D'ailleurs, il nous a donné un commandement de l'aimer. Lui d'abord, pas quelqu'un d'autre. Donc, la première place en tant que chrétien né de nouveau, donc c'est l'amour, mon attachement à Dieu et non au monde. Encore une fois, le monde mauvais. Je ne parle pas de ce monde physique où Dieu nous a bénis en nous donnant tout ce qui est bon et merveilleux. Mais je parle de ce monde mauvais. Monde de ténèbres où Satan règne, où il est le maître, avec toutes ces pensées qui viennent de l'enfer. C'est ce monde-là que nous ne devons pas aimer. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, aucune cohabitation. Vous savez, même dans le monde politiquement, quand il y a la cohabitation entre la droite et la gauche, ça se passe bien? Il y a toujours des problèmes, des gros problèmes. Mais quand c'est la gauche, même entre la gauche tout simple, ça ne passe pas bien. Mais bon, essayons de résumer, quand c'est la gauche tout seul, quand c'est la droite tout seul, mais quand il y a la cohabitation, ce n'est pas bon. Nous aussi, on ne peut pas cohabiter avec le péché, le monde. Non, il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a pas, bien aimé, l'amalgame entre les disciples de Dieu, les disciples, les enfants de Christ et le monde. Non. Nous sommes le peuple de Dieu, donc il n'y a pas d'amalgame. Simplement parce qu'il n'existe pas de position intermédiaire pour celui qui affirme appartenir à Christ. Si j'appartiens à Christ, je ne peux pas dire qu'en même temps j'appartiens à Christ, comme je vous ai démontré, j'appartiens à Christ et au monde. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Nous allons lire Jacques 4, verset 4, chapitre 4, verset 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, adultère, parce que moi j'avais écrit dans l'autre version, alors je vais lire. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est fort cette parole. Jacques dit, mais adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde, au début, rappelez-vous de la question que Dieu est un type d'amour. Oh non, mais là, il nous dit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est clair. Inimitié ici, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Inimitié veut dire simplement la haine. La haine, bien-aimé, c'est la haine. Alors si je remplace la haine par inimitié, qu'est-ce que je lis? J'ai dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une haine contre Dieu? Soulignons encore une fois qu'il y a deux manières d'aimer le monde. Première façon d'aimer le monde, c'est aimer le monde dans le but de le sauver. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu est créateur du monde. Il a tant aimé le monde qu'il a créé. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une bonne manière d'aimer le monde. Dieu aime le monde qu'il a créé. En voyant tout ce qui se passe, tout ce qui va venir, il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons la vie éternelle parce que nous, nous avons cru en Jésus-Christ. Amen. Mais nous ne sommes pas le sauveur du monde. Le sauveur du monde, c'est Jésus. Le rédempteur du monde, c'est Jésus. Mais c'est Jésus, quand il est venu, il nous a dit quoi? En partant dans Matthieu 28, il nous a laissé une mission d'aller. Aller vers les nations. Faites des nations des disciples. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur. Parlez-leur du royaume. Nous sommes les disciples de Christ. Nous sommes les ambassadeurs, ambassadrices de Christ. Dieu nous a confié cette mission de réconciliation. Christ est venu pour réconcilier, nous réconcilier avec le Père. Il est parti, il nous a laissé cette mission d'être, à notre tour, réconcilier le monde, ce monde déchu qui ne connaît pas Dieu, hostile à l'Évangile, qui n'aime pas écouter l'Évangile, le réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est la mission que Dieu nous a laissée. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous l'accomplissons? Qu'est-ce que nous attendons? Et n'oublions pas que nous sommes des ambassadeurs, ambassadrices de Christ. Nous vivons dans ce monde. Nous côtoyons les non-croyants chaque jour que Dieu a créé. Nous les côtoyons. Dans les quartiers où nous vivons avec eux. Mais comment vivons-nous? Comme eux ou comme les enfants des Lumières? Nous devons vivre comme les enfants des Lumières. Parce que celui qui habite en nous est une lumière. Il est clair, nous devons éclairer le monde. C'est là où Dieu nous a confié cette mission. Ne vivons pas comme dans des vases clos. Vous savez, il y a certains sectes qui vivent dans des vases clos. Des moines qui vivent dans des vases clos. Sous prétexte quoi? De se préserver de la mentalité du monde. Alors, eux aussi, ils définissent le monde de leur façon, n'est-ce pas? Parce que Satan est l'ange de lumière. Il prend la parole de Dieu, il peut venir, il t'éclaire, mais c'est une fausse lumière. C'est pourquoi Jacques nous dit, si c'est lui qui n'a pas le discernement, demande que Dieu puisse lui donner la sagesse et le discernement. Parce que Satan est vicieux. Il peut nous détourner de la parole de Dieu, de la vérité. Donc ceux-là, ces sectes, ces gens, donc pour eux, ils disent que voilà, que nous allons nous mettre à l'écart. Nous allons vivre dans le vase clos pour ne pas se confondre avec le monde. Donc nous les chrétiens, ils nous mettent tous dans ce monde-là. C'est pourquoi Christ, dans Jean 17, qui est la prière sacerdotale de Jésus, Jésus demandait au Père, il disait ceci, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. » Christ demande au Père de nous préserver du mal. Le mal, ce monde méchant, ce monde mauvais. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ce monde est hostile à l'Évangile. Ce monde est les enfants de Dieu. Et ce monde-là est méchant pour les chrétiens. C'est pourquoi Jésus-Christ, il dit, mais préservez-le, qu'il ne puisse pas tomber dans le piège du malin. Raison pour laquelle l'amour du monde était compatible avec l'amour de Dieu, encore une fois. Parce que tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est pour cela, Jean, dans ses textes, il nous donne trois exemples. Nous sommes presque à la fin. Ces trois exemples que nous ne devons pas aimer. Nous ne devons pas aimer ces choses-là. Ces trois exemples. La première, c'est la convoitise de la chair. La chair désigne l'élément corporel de notre être. Je suis là. La chair est collée à ma peau, n'est-ce pas? À chacun de nous. La chair est collée. La chair, c'est l'ensemble de nos actes. La chair, c'est l'ensemble de nos pensées. Des pensées qui ne sont pas régénérées. Des pensées qui sont contraires à ceux de l'esprit. Ça, c'est Galates. L'apôtre Paul nous définit bien toutes ces pensées-là. Dans Galates 5, à partir du verset 19 à 21. Donc, c'est ça, ces actes et ces pensées qui sont contraires à ceux de l'esprit. Mais n'oublions pas que la chair restera toujours en opposition avec Dieu. Toujours la chair est opposée à Dieu. Parce qu'elle n'est pas régénérée. Elle ne sera jamais régénérée. En d'autres termes, la chair, c'est notre premier ennemi. Il est l'ennemi numéro un. Nous en avons trois. La chair, le monde et le diable. Voyez, le monde que nous avons défini, le monde avec son ensemble de systèmes spirituels mauvais, c'est ce monde-là. La chair et ce monde-là, et en plus le diable, qui est le prince de ce monde. Donc la chair restera toujours en opposition avec Dieu. Pourquoi? Simplement parce que c'est l'élément fondamental de nos désirs charnels. Voyez nos désirs charnels, qui ne sont pas les désirs de Dieu. Les désirs charnels, c'est la chair qui nous pousse. La chair nous pousse. La convoitise des yeux, elle aussi, elle est dangereuse, n'est-ce pas? Nous ne devons pas aimer la chair, nous ne devons pas aimer la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Vous savez, la convoitise des yeux, elle nous pousse, les yeux, et nous pousse à posséder ce que les autres ont. Quand je regarde celui-là une maison, moi aussi je vais avoir une maison. Je regarde celui-là ceci, moi aussi je vais l'avoir. Ça, c'est la convoitise des yeux. Nous devons faire très attention. Parce qu'en convoitant ce que l'autre a ou les autres ont, s'engendre quoi? La jalousie, la haine. Ça peut aller même au meurtre, bien-aimé. Même au meurtre. Ça peut aller même au meurtre. Parce que tellement que Satan t'enveloppe avec toutes ces pensées qui viennent de l'enfer, vas-y, fais ceci, possède ça, mais regarde-lui, comment lui il fait? Après ça, tu commences à l'haïr, jusqu'à ce que tu vas chercher un couteau, tu vas chercher ceci pour tuer. Vous voyez, c'est que là où ça peut nous amener, la convoitise des yeux, elle est mauvaise, parce qu'elle vient de l'enfer. Elle peut nous amener aussi à nous endetter. À nous endetter, parce qu'on veut posséder ce qui n'était pas une nécessité, une valeur, donc un besoin absolu. Ce n'était pas nécessaire. Mais parce qu'il faut que j'aille m'endetter pour l'avoir. Je dois tout faire pour l'avoir. Même si je n'aime pas des sous, il faut que je fasse tout. Et vous savez, il y a des gens qui vont s'endetter. Il est au chômage, un exemple, mais il va chercher des fausses fiches de paye. Il va à la banque, et la banque lui accorde des crédits. Et incapable de payer, on veut encore ravir ce qu'il avait. La convoitise des yeux, ça amène très loin. Elle est mauvaise. Mais je ne veux pas dire ici, comprenons-nous bien, qu'aujourd'hui, j'ai mon travail, je gagne ma vie comme Dieu me permet de le faire. Si je veux contracter un emprunt, je peux aller à la banque, contracter un emprunt. C'est le monde physique. Dieu a donné l'intelligence aux hommes, ils ont créé des banques. À la banque, donc je peux aller pour... ma paye passe à la banque, je peux aller chercher petit à petit pour ne pas prendre tout, etc. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Donc, si aujourd'hui je peux aller à la banque pour demander un emprunt, la banque va m'accorder un emprunt. Mais il va étudier mon dossier. Il va voir si je suis capable de rembourser mon dossier. C'est ça le problème. Donc, emprunter de l'argent n'est pas un péché. Mais quand tu n'es pas capable de le faire, ne le faites pas. Je ne vais pas aujourd'hui aller m'endetter et puis mettre au péril les enfants que Dieu m'a donnés. Ils n'ont rien à manger. Chaque jour, il faut qu'ils mangent des patates. Ce n'est pas possible. Donc, là aussi, nous devons faire très attention. En résumé, la convoitise de Dieu, c'est la cupidité. C'est la cupidité, pas autre chose. C'est pourquoi le psalmiste nous dit, le psaume 119, verset 37, c'est ceci. Ah, c'est terrible, hein, ces versets. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, des choses sans valeur. Le psalmiste, il dit à Dieu, Père, détourne mes yeux, les yeux que tu m'as donnés, la convoitise des yeux, détourne ces yeux des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. L'orgueil de la vie. Le dernier point. L'orgueil de la vie, c'est le désir d'être au-dessus de tout le monde. Au-dessus des autres. D'être vu, d'être admiré, d'être apprécié. D'être celui qui sait tout. Celui qui a tant de diplômes comme les autres. Entre parenthèses, je suivais une émission. Il y avait un monsieur qui débattait. Et puis, il dit, ben, moi, je suis professeur à l'université. Ma femme, elle est aussi professeure à l'université. Il a dit qu'il a participé aux manifs de 68, etc., etc. Mais quand on regarde le visage de cet homme, quelle arrogance. Qu'il y avait que l'arrogance, tout ce qui sortait de sa bouche, il n'y avait que l'arrogance. Il se montre, donc il est au-dessus de tout le monde. Et pourtant, autour de lui, il y avait des avocats, autour de lui, il y avait des docteurs, il y avait de tout, des ministres. Mais lui, il s'est dit, mais moi, il faut que j'aie. Ça, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil. L'orgueil de la vie, c'est le culte de moi. C'est aussi tirer gloire de ce que nous possédons. Ou encore, ce que nous avons accompli. Je fais des grandes études, moi. Je suis docteur de ça et de ça. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 4, au verset 7, nous dit ceci. Vous connaissez bien ce verset. Car, qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'es pas reçu? Qu'as-tu que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi alors, dans d'autres termes, on peut dire, mais pourquoi tu fais fier? Pourquoi tu fais fier? Pourquoi tu te glorifies? Car si tu ne l'avais pas reçu, pardon, comme si tu ne l'avais pas reçu, pourquoi te glorifier, faire fier si tu sais que tu ne l'avais pas reçu? S'enorgueillir revient à tromper les autres. On trompe les autres puisque tous les biens d'une personne lui viennent de la main divine de Dieu. C'est la providence de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est la providence de Dieu. Si seulement, entre parenthèses, si ce que nous pouvons, non, ce que les gens peuvent avoir, pas nous, excusez-moi, ce que les gens peuvent avoir, viennent d'une manière illicite, par le vol, par la tricherie, donc les biens qu'il a viennent de ces côtés-là, donc du monde, des pensées du monde, alors celui-là peut se glorifier, peut faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais nous, nous ne pouvons pas aller jusque-là. Parce que nous savons que tout nous vient de la main salvatrice de notre Seigneur. Et pour finir, l'apôtre Jean nous donne deux réalités. La première, c'est que le monde passe avec ses désirs. Alors pourquoi attacher notre cœur? Le psaume 39, au verset 7, nous dit ceci. Oui, l'homme, ou alors je voulais lire dans d'autres versions, il dit, oui, l'homme va et vient. L'homme va et vient. Il se promène partout, comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses et il ignore qui le recevra. Notez bien ce verset, c'est fort. L'homme va et vient, comme une ombre, il s'agite, mais c'est pour le vent, pour bout du vent, pardon. Il amasse des richesses et il ignore ce qu'il recevra. Ecclésiaste, lui, comme vous connaissez tous, 1, 2 à 3, vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités. Quel avantage revient-il à l'homme, bien-aimé, de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Quel avantage, si tu sais que tu vas tout perdre à la fin? Quel avantage? Deuxième réalité, que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est à la fin de ces versets, de ce que nous venons de lire. N'aimez point le monde, que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pourquoi Salomon, dans Proverbe 10, au verset 25, nous dit ceci, que le juste a des fondements éternels. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Celui qui fait la volonté de Dieu reposera sur un fondement éternel. Celui qui fait la volonté de Dieu, donc, se reposera sur un fondement solide et stable qui lui permettra de faire des progrès. De faire des progrès et d'atteindre la maturité spirituelle. Nous nous préparons parce que Christ va revenir. Et cette maturité, c'est maintenant. Nous devons nous préparer. Et c'est sur le fondement solide en faisant la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure en lui, dans une communion intime avec lui et une communion qui n'aura pas de fin. C'est lui qui fait la volonté de Dieu, il rejette tout ce qui est mauvais parce que Dieu lui a donné la sagesse, le discernement pour accomplir tout cela. Oui, pour finir, je vais vous lire un texte dans Matthieu 7 qui va clore tout cela. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Bien-aimé, la porte est ouverte et n'est pas fermée, mais si nous voulons y rentrer, nous devons faire chacun de nous la volonté de Dieu, obéir à ses commandements, l'aimer, les suivre. Amen.